Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. C'est parti pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez découvrir une sorte de prestidigitateur vocal, un véritable magicien qui peut se métamorphoser en une fraction de seconde en un responsable politique, un chanteur, un acteur ou un sportif. Chaque matin, il décrypte à sa façon l'actualité sur Europe 1 dans une chronique où absolument tout le monde en prend pour son grade. Le soir, il se transforme littéralement en quelqu'un d'autre grâce à une prouesse technologique dont on ne s'est toujours pas remis, mais s'il nous fait l'honneur de s'arrêter sur ce plateau, c'est aussi parce qu'il va s'apprêter dès demain à pousser la chansonnette pour la bonne cause. Bonjour Nicolas Canteloup.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir à chaque fois, mais c'est des mois pour vous avoir. Dès qu'on a trouvé le créneau, on est trop heureux. Je veux juste qu'on démarre avec l'actualité évidemment principale. Ce sera demain, vendredi 6 mars sur TF1, en direct, le concert annuel des Enfoirés, annoncé déjà comme la plus grosse audience de l'année, quasi fait d'avance. Hors foot, je parle bien. Une troupe que vous avez rejoint il y a 8 ans maintenant. C'était votre 9e saison.
Voilà, exactement.
9e saison. Et évidemment qu'il y a un petit pas de côté tous les ans par rapport à vos activités. Une première question. Toujours, quand vous y allez et quand vous en êtes sorti de ces concerts, c'est comment? Est-ce que c'est toujours la récré, la colo de vacances avec les potes? Ou il y a aussi cette forme de devoir et de responsabilité? Est-ce qu'il y a un peu les deux?
Oui, voilà, c'est un petit peu les deux. Ce qui me change dans mon métier, c'est que je fais un métier assez solitaire. Paradoxal, même si je travaille en équipe, mais là, on se retrouve en bande sur scène, donc ça change dans la discipline que je pratique. Donc on est, et puis une forme d'indulgence, parce qu'on va chacun sur des univers que l'on ne connaît moins. Nous, on va chanter, les chanteurs vont chanter, les humoristes vont chanter, les chanteurs vont jouer la comédie. Donc il y a une forme d'indulgence du public, et puis comme on sait effectivement que c'est pour la bonne cause, voilà, il y a une espèce de lâcher prise, de côté bon enfant, il n'y a pas d'ego.
C'est ce qu'on dit tout le temps, et c'est vrai, effectivement.
Oui, il n'y a pas d'ego, je crois, parce qu'on est tous plutôt en place dans nos métiers respectifs. Et donc, on ne cherche pas à se tirer la bourre les uns les autres. Voilà, on accepte les rôles qu'on nous donne, on se déguise avec les tenues qu'on nous donne. Il n'y a pas de... L'amour propre et l'ego est laissé de côté.
Absolument. Par contre, vous tirez la bourre côté ridicule des costumes parfois. Ça fait partie du show. Évidemment, on va en parler dans quelques instants. On est en direct avec Nicolas Canteloup sur Figaro Live, sur tmac.com et la page Facebook, bien entendu, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Nicolas. Allez-vous regarder Les Enfoirés comme chaque année? Est-ce que vous le suivez tous les matins sur Europe 1? Est-ce que vous ne manquez sous aucun prétexte C'est Canteloup le soir sur TF1? Aimeriez-vous le voir davantage à la télé? Allez-vous le voir en spectacle? N'hésitez pas à vos questions, vos remarques, vos suggestions. Il répondra à tout après les news médias de Damien Canivès. Salut Damien.
Salut Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas.
Ah oui, il y a beaucoup de Nicolas.
Alors Damien, vous êtes ici avec vos cheveux, évidemment, pour nous donner les audiences d'hier soir. Qui est arrivé en tête?
Eh bien, c'est France 2 qui dégainait la première demi-finale de la Coupe de France opposant l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain.
Ah oui,
près de 4 millions de supporters ont applaudi la victoire des Parisiens. 5 buts à 1 quand même face à l'OL, ce qui représente 12,9% de part d'audience. Oui, c'est vrai. Bon, et puis il y a eu un carton rouge aussi qui a évidemment changé beaucoup le cours des choses, il faut le reconnaître. M6 enfile la médaille d'argent grâce à la 11e saison de Top Chef, le concours culinaire arbitré par Stéphane Rothenberg a mis l'eau à la bouche de 2,6 millions de gourmands, une baisse de plus de 600 000 téléspectateurs quand même en une semaine. TF1 misait quant à elle sur l'épilogue d'émergence. Pas de coup d'éclat pour la série américaine qui enregistre une nouvelle chute d'audience. Et enfin, on termine avec une petite catastrophe. C'est vrai que d'habitude, on a l'habitude de mettre en avant les émissions qui fonctionnent. Là, cette fois-ci, France 3 enregistre un vrai flop. Il s'agit des antennes régionales, vous savez, qui décrochaient exceptionnellement à l'occasion des débats sur les municipales. Seuls 542 000 téléspectateurs ont répondu présent. C'est vrai que c'est assez peu.
On n'a pas de chiffre encore du débat d'LCI, parce que ça arrivera. Il y avait le débat pour les candidats à la mairie de Paris. Hier soir, on l'aura probablement tout à l'heure. Est-ce que là, à moins de 15 jours, 3 semaines des échéances municipales, pour vous, c'est un terrain de jeu exceptionnel? Ou est-ce que le coronavirus, l'actualité, a un peu pris le dessus dans ce que vous faites
non,
tous les jours?
Non, c'est toujours l'actualité politique qui est porteuse pour nous.
Le coronavirus, c'est difficile d'être drôle.
Oui, et puis la difficulté du coronavirus ou d'une activité comme les Gilets jaunes, c'est quand c'est une actualité répétitive. C'est-à-dire qu'on va trouver des vannes ou des blagues sur un jour, deux jours, un week-end, deux week-ends, trois week-ends. Puis après, ça commence à être répétitif, donc c'est un peu plus compliqué pour nous. Mais bon, on a l'habitude, j'allais dire, d'avoir...
Voilà, on a l'habitude. Alors que les politiques vous déçoivent jamais, en fait.
Mais oui, les politiques, on se rend compte que le public se passionne. On dit un détachement des gens avec la politique, mais dès qu'il y a une élection, même sur les européennes, où c'était quand même une élection lointaine en termes de proximité... électorale, les gens se passionnent. Dès qu'il y a des duels, il y a des petites phrases, les hommes politiques, femmes politiques sortent du bois. Et nous, c'est du pain béni. L'actualité qui se renouvelle le plus, c'est l'actualité politique. Voilà, donc,
Quand vous voyez une affaire, par exemple, comme celle qui arrivait à Benjamin Griveaux, vous dites « Waouh, le lendemain,
c'est parfait.
Bah, c'est fabuleux. »
On pensait que passer des SK, on n'aurait plus rien. On avait atteint un sommet, mais là, non.
Ça y est, vous avez un nouveau.
Ils nous surprennent toujours. Bah, après, il y a eu le scooter avec François Hollande. Après, il y a Griveaux. Ce sont des humains, donc voilà, il peut tout se passer.
Et ils font des bêtises humaines, évidemment, comme tout le monde. Damien, on continue. Évidemment, on parlait du coronavirus. Il y a également des conséquences sur la télévision, notamment pour une émission de France 2.
Effectivement, alors que le ministère de la Santé a indiqué hier que le coronavirus avait infecté au total 285 personnes. Les chaînes tentent de s'adapter face à ce contexte sanitaire et il se pourrait bien que le virus compromette l'arrivée de certains programmes à l'antenne. Selon une information de notre confrère journaliste média Maxime Guény, France 2 a décidé de reporter à une date ultérieure le tournage d'Interville qui devait se tenir au parc d'attractions Disneyland en Seine-et-Marne. Ouais. Effectivement, alors les animateurs Olivier Mine, Bruno Guillon et Valérie Beck qui ont été choisis pour ressusciter ce programme culte devaient au total tourner 4 numéro. Interville est la première émission à être directement impactée par la propagation du coronavirus, mais il se pourrait bien que d'autres programmes fassent également les frais et en pâtissent. La cinquième saison, par exemple, de Ninja Warrior sur TF1, le tournage, exactement, ça doit arriver début avril. Pour l'instant, on ne sait pas si le tournage est maintenu. En tout cas, TF1 n'a pas communiqué d'informations à ce sujet.
Bon, de toute façon, il n'y avait pas de vache à Interville, c'est pas grave.
Non,
mais le coronavirus, est-ce que vous en avez peur? Est-ce que ça change votre quotidien? Est-ce que vous faites attention? Vous n'êtes pas en tournée, par exemple, en ce moment. On sait que c'est très difficile pour les gens de tourner parce que les salles se vident assez rapidement. Et là, c'est quelque chose dont vous tenez compte, vous, là, aujourd'hui, dans votre actu, et qui vous fait peur ou pas?
Dans l'actu quotidienne, dans l'écriture, oui, bien sûr, parce que c'est notre sujet, c'est un sujet clé. Mais dans ma vie de tous les jours, non, ça ne me change pas.
Si je vous n'êtes pas arrivé avec un masque sur la tête?
Non,
tout,
pas du tout.
On confirme.
Voilà, peut-être que je me lave un peu plus les mains. Bon, voilà, je me lave une fois par mois. Là, j'ai lavé une fois tous les 15 jours. Voilà, mais non, ça ne change pas grand-chose. Pour l'instant, je n'ai pas de phobie.
Pas de psychose et pas de phobie. Merci Damien. C'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, d'autres news médias dès demain. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz et toutes vos questions. Nous sommes en direct avec Nicolas Canclou. Nicolas Canclou avec nous en direct sur Le Figaro, sur la page Facebook de TV Mag, le Paris des Enfoirés, c'est le titre du concert caritatif que TF1 diffusera demain, ce sera à 21h. C'est un spectacle évidemment très attendu au cours de laquelle vous allez chanter, vous déguiser, faire des sketchs. Pourquoi avoir décidé de célébrer la capitale? Le thème de cette année, c'était ça, les concerts ont eu lieu à Paris, à Bercy, à l'Accor Hotel Arena. Pourquoi ce titre-là et cette...
Je ne sais pas.
Non, vous ne savez pas, c'est pas vous.
Il y a des auteurs qui sont sur les sketchs. Non, chaque fois, il y a un thème. Il y avait une fois, je crois que c'était l'hôtel des Enfoirés, les Enfoirés font la fête, les Enfoirés...
Oui, absolument.
Voilà, c'est des thèmes. C'est comme
là, c'est le Paris I, entre parenthèses, S.
Voilà, c'est l'inventivité des auteurs. C'est comme Astérix et Obélix partent chez les Bretons.
Là, c'était Paris. Alors, cette nouvelle édition, on a vu, il y a 21 tableaux qui sont tous absolument extraordinaires et on va voir la bande-annonce dans quelques instants. Quels sont ceux qui vous ont le plus fait rêver? Mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche, sans trop en révéler.
Les tableaux.
Ouais, alors, tableau, les trucs que vous avez aimé faire.
Je vais vous dire la vérité. En fait, on découvre, enfin nous, en tout cas moi personnellement, le spectacle des Enfoirés, je le découvre quand je le revois, quand je le vois à la télé. Je ne le vois pas toujours en direct, mais quand je le vois, quand je le découvre. Parce que, en fait, quand on joue avec nos camarades, on est sur scène et on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et en termes de décor, c'est souvent exceptionnel. En termes de décor, de costumes, etc. Nous, on s'habille dans la loge, on est la plupart du temps.
Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il y a.
On ne se rend pas compte de la réalité, de ce que le tableau donne. Voilà. Parce qu'on est, sur scène. Et on s'en rend compte après. Donc, c'est toujours. Non, c'est quand on le. Moi, j'étais surpris l'an dernier. J'ai vu le spectacle à la télé en direct en famille et j'étais surpris par la qualité des tableaux. Je ne dis pas du jeu, mais des tableaux.
Votre participation, alors vous le disiez, vous êtes un humoriste, mais vous poussez aussi la chansonnette et vous êtes aussi dans les sketchs. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez, vous, Nicolas, une participation active à tout ce qui est, on va dire, les petites parties sketch et humoristiques, vous et vos auteurs, Philippe Cavalière ou Laurent Vassilon?
Alors, j'ai mes auteurs qui sont très impliqués avec les Enfoirés depuis déjà, depuis 7, 8, 9 ans.
9 ans, oui.
Qui écrivent une bonne partie des sketchs. Donc, quand c'est des sketchs avec d'autres artistes, bien sûr, ils se les accaparent. Et quand c'est notre partie à nous, quand je suis dans un sketch, effectivement, Robidouille, on voit tout de suite, quand on joue sept concerts, on voit le premier concert, c'est imparfait. On Robidouille, ouais, on resserre les boulons, etc. Ouais. Mais c'est un choc thermique quand je vais aux Enfoirés, parce que sur nos émissions à la radio et à la télé, on a l'habitude de très répéter, d'être vraiment de bidouiller, c'est de l'horlogerie, au millimètre. Et là, les Enfoirés, c'est une vaste foire.
L'impro quand même, vous voulez
dire ? Il y a beaucoup d'impro. Ouais. Tout le monde, personne n'est contrôlable parce qu'on est tous à droite, à gauche. C'est une fourmilière, donc on a du mal à se retrouver pour répéter. Donc on répète 4-5 minutes avant, on monte sur scène et la magie opère à chaque fois. Parce que la maladresse et l'imperfection, le public adore ça. Ouais, il voit quand on se plante. Ouais. Il y a des gens qui ont qu'admiral qui sont magiques lorsqu'ils se plantent.
Ah bah oui,
parce que plus ils se plantent, plus ils sont bons. Et puis en plus, ils disent tout ce qui se passe. Donc les gens adorent. Donc voilà. Et la mayonnaise prend à chaque fois.
Damien.
Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de Télé Magazine. Il y a énormément de questions et évidemment beaucoup de compliments. Écoutez, on va lire quelques commentaires sympas. Daniel, par exemple, je ne loupe jamais votre émission avec Alessandra. Vous êtes sublime. Avec vous, on arrive à rire. Je vous adore. Bettina aussi, qui est assez étonnée d'entendre votre vraie voix. C'est vrai, elle trouve que c'est assez bizarre finalement parce que d'habitude, elle vous entend imiter d'autres personnalités. Et on va prendre une question de Michael. Quelle est, selon vous, la personne la plus dure à imiter?
C'est très présomptueux ce que je vais dire, mais je n'ai pas de complexe là-dessus. Ouais. Forcément, j'ai des voix sur lesquelles je suis à la ramasse totale, mais je n'ai pas de complexe, c'est-à-dire que je ne m'interdis jamais de faire une voix. Je me dis qu'il y a toujours une porte d'entrée, une clé à trouver pour imiter quelqu'un dont je n'ai pas la voix. Ça va peut-être dans la musique, parce que la voix, c'est l'imiter quelqu'un. Vous imitez vous, ce n'est pas seulement d'avoir le timbre de la voix, c'est aussi la musique, le choix des mots, la posture, je suis assuré ou je suis timide, je suis rentré. Donc je me dis, il y a toujours une porte d'entrée pour évoquer un personnage. Moi, c'est gagné lorsque j'arrive à évoquer le personnage et que celui qui m'écoute rentre dans l'histoire, même si c'est imparfait. Voilà.
Est-ce que par exemple, pour rejoindre, la question de Michael, est-ce qu'au contraire, il y a des voix, vous aimeriez bien les faire, les personnages vous intéressent et vous n'arrivez pas à trouver cette porte d'entrée où à un moment vous renoncez, vous dites ah, j'ai pas le truc. Ou
alors, par exemple, je vais révéler quelque chose que je ne devrais pas dire, c'est un secret professionnel, mais par exemple, la voix d'Edouard Philippe, c'est une catastrophe. Je ne sais pas faire Edouard Philippe. Ouais. Or, c'est une faute professionnelle quand on est imitateur de métier, de ne pas faire le président de la République et le Premier ministre. Le président de la République, ça va, mais le Premier ministre, je suis pas. J'ai pas vraiment le timbre, j'ai pas chopé le truc, mais je crois que j'ai attrapé la musique. Il a une forme d'assurance, mais imparfaite et de rupture comme ça, tac tac. Donc je crois que bon, effectivement, Damien, Nicolas, ça, pas se mentir. Voilà, il y a une espèce de ces ruptures. Et donc ça évoque le personnage.
Bien sûr.
Et donc là, j'ai pas vraiment le timbre de la voix, mais j'ai le choix des mots, de musique, de rupture. Donc c'est un ensemble. Donc une frustration sur des voix que je ne fais pas. C'est la boîte de demain, quoi.
Absolument. Voilà. On va revenir évidemment quelques instants sur Les Enfoirés. Il y a un moment évidemment très fort dans ce concert que les gens vont découvrir, c'est le retour de Véronique Sanson après plus de 20 ans d'absence. Véronique Sanson était la première femme de la troupe des Enfoirés avec Jean-Jacques Goldman, Johnny, Eddie Mitchell, Sardou à l'époque. Quel souvenir, qu'est-ce que ça vous a fait de l'avoir montée sur scène? Elle monte, il y aura une scène au piano, on ne va pas tout révéler, mais il y a vraiment
C'est des moments assez magiques. Enfin, assez particulier, parce qu'il y a un vrai respect pour la professionnelle. Elle est arrivée très discrète, très apafeutrée. On sentait qu'elle était affaiblie physiquement, et donc il y avait une forme de respect, mais commun. Rien que de la voir, il s'est passé quelque chose. Voilà. Et puis on l'a accompagnée sur scène, elle a joué au piano, c'était un moment fort. Enfin, je crois que les gens, on ne triche pas sur ces moments-là. Il n'y a pas de fabrication, il n'y avait pas d'artifice, ça s'est fait tout seul, tout le monde s'est retrouvé autour d'elle. Et voilà, c'est un moment de reconnaissance par rapport à sa carrière, par rapport à son statut, par rapport à son engagement, sa classe. Cette petite dame comme ça, parce que c'est un petit gabarit devant 12 000 personnes, devant 50 artistes. Il se passait un truc.
Bon, par contre, quand elle pousse la voix, effectivement, c'est pas du petit gabarit.
Et puis c'est ça qui est magique. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un, sans trahir quoi que ce soit, d'affaibli, elle ne s'en cache pas, qui tout d'un coup, lorsqu'elle est sur scène et qu'elle prend son piano en main, et qu'elle chante, là, il n'y a plus d'affaiblie. Ah oui, là, c'est de la force, c'est une lionne, quoi. Elle est en place. Donc ça, c'est formidable.
Alors, un petit mot sur les nouveaux visages. Il y en a toujours, des petits nouveaux qui rejoignent la troupe. Cette année, c'est Vita Maël, ouais, l'ancienne vainqueur de The Voice. Il y a également eu Elena Noguera, la comédienne et chanteuse. Alice Paul, qu'on voit souvent dans les films. Et en humoriste, Inès Reg, ouais, qui était un petit peu la révélation de l'année. Comment ils se sont intégrés à la bande? Comment vous les avez bizutés? Vous n'avez pas été trop méchant avec
non, eux? Non, ça se fait tout seul. Il y a eu beaucoup de filles cette année. Ouais. Donc, c'est plutôt dans le cas des filles parce qu'il y a deux loges. Je vais là aussi travailler un secret. Il y a la loge des garçons et la loge des filles.
Oui, donc absolument, pour se mélangé, changer.
Voilà, pour se changer. Donc, ouais, souvent, on slip 10 fois dans l'heure parce qu'on n'arrête pas en 4 heures, on n'arrête pas de se changer. Donc, je pense qu'ils ont bizuté dans le camp des filles. Non, mais il y a une espèce de main tendue. Ça se fait tout seul. En fait, on dit, allez, viens, t'inquiète pas. Il y a toujours une petite appréhension la première fois. C'est 12 000 personnes quand même. C'est bon, après
des. Il y a des gens qui n'ont jamais fait ça, quoi.
Qui n'ont jamais affronté de public, bien que la plupart, quand même, sont des artistes qui ont fait de la scène. Ça se passe tout seul. Moi, je me souviens d'une intégration qui s'est passée. On se demande où on va, on se dit oulala, oulala. Puis il vous dit non, t'inquiète, tu vas voir. Et puis,
hop, ouais, il y a toujours quelqu'un qui vous prend par la main.
Damien. C'est le côté troupe.
Ouais. Un imitateur incontournable qui assure toujours autant, que ce soit à la radio, à la télé, respect à lui. C'est toujours un bonheur de se marrer grâce à lui. Ça, c'est un message d'Alexandre. Et on va prendre une question de Sandrine, très concrète, cette question. Comment faites-vous pour vous entraîner lorsque vous devez faire de nouvelles voix? Est-ce que vous vous mettez face à une glace? Est-ce que c'est 3 heures par jour? Comment ça se passe?
Alors, j'écoute beaucoup la radio, Europe 1, pour pas vous.
C'est mieux.
Donc, j'écoute beaucoup la radio, donc je m'inspire déjà de l'actualité, ce qui me permet de me nourrir, et puis bien sûr avec mes auteurs qui m'apportent beaucoup de choses. Mais sur le travail proprement dit des voix, je suis à l'écoute, on est suralimenté d'informations, il y a beaucoup de médias, donc je suis toujours à l'écoute en stand-by, je suis comme un chasseur. En fait, comme un chasseur, j'ai toujours le fusil armé, je me dis, tiens, il y a un personnage qui sort, tiens. Tiens, celui-là, il a l'air dans l'actualité, il commence à être identifié, il a fait telle bêtise ou truc, et ce serait pas mal de le sortir, donc j'écoute. Ça peut être. L'autre jour, j'écoutais une interview de Yannick Jadot, puis voilà, je me dis, Jadot, c'est intéressant pour améliorer la panoplie politique et avoir les verts aussi. Et puis, je m'exerce comme ça, j'ai pas de glace, non, je m'écoute, puis j'arrive à reproduire, puis quand je commence à me faire sourire, c'est plutôt bon signe. Et puis après, j'envoie à mes auteurs. Un essai en dictaphone, et je dis qu'est-ce que vous en pensez, puis ils me disent, quand ils ne me répondent pas, c'est que je sais que ce n'est pas bon. Puis ils m'envoient un pouce, ils me disent c'est bon. Et puis ensuite, je dis, je verrai bien tel axe, et puis ensuite, leur talent fait le reste.
C'est incroyable, parce qu'on voit plein de gens qui disent, votre vraie voix, ça fait bizarre, votre vraie voix, c'est incroyable, en fait, c'est vraiment ce qui passe ici. Voilà. Damien, encore une autre question?
Allez, une question de Tristan. Est-ce qu'il vous arrive d'imiter des collègues des enfoirés devant eux, comme Patrick Bruel, par exemple?
Ah oui, vous les voyez? Ah,
non, moi, je suis totalement lâche, jamais devant.
Jamais devant eux Non, Patrick Bruel, vous le faites bien, moi j'aime bien Bruel.
Je me souviens, sur scène, je l'avais fait aux enfoirés. En fait, le paradoxe aux enfoirés, c'est que je fais assez peu d'imitations. En fait, je suis dans mon personnage. Les Enfoirés, là, je joue un guide parisien, donc je n'ai pas pris la voix de Las Palès. Non, je fais ma voix, je sors. Là, c'est une récréation, je ne fais pas forcément des voix. Mais voilà.
Mais pas devant eux, en tout cas.
Non, pas devant.
Par lâcheté, comme vous l'avez dit. Alors, évidemment, on rappelle que les Enfoirés rapportent 13,5 millions d'euros au Resto du Cœur. Hein. Chaque année, grâce au concert, les ventes d'albums de DVD qui seront en vente dès samedi, hein, dès le lendemain du concert. Mais on se rend compte, comme souvent, que la pauvreté, hélas, ne cesse d'augmenter. On n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Est-ce que cette phrase n'est pas utopique? Vous, au bout de 9 années, des Enfoirés, vous vous rendez compte que ça n'a pas beaucoup changé, hélas, et que les restos sont malheureusement, bien sûr, j'ai envie de dire, plus nécessaires que jamais.
Oui, c'est un peu l'arlésienne de répéter ça, mais bon, voilà, c'est la vie. Voilà, il y a toujours éradiquer la misère, c'est compliqué. C'est des décisions politiques, voilà, il y a toujours des gens qui sont aisés, des gens qui sont en difficulté. Voilà, c'est une main tendue. On aimerait que les Restos du Cœur n'existent plus, mais je pense que c'est un peu utopique.
Oui, c'est ce que tout le monde disait, Jean-Jacques Goldman, notamment.
Voilà. Mais bon, il y a des périodes de vie qui sont des accidents de vie aussi. Il y a des gens qui se retrouvent, qui étaient dans une bonne situation, qui se retrouvent à une période difficile. Donc voilà, c'est encore une fois une main tendue. Je pense qu'il faut que ça existe. Moi, je trouve que je pense que, pardon, j'ai du mal à trouver les mots, mais non, c'est une utopie de penser que ça s'arrêtera un jour. Voilà,
ouais, effectivement. Donc, les restos restent plus nécessaires que jamais. Juste un petit mot, tout à l'heure, vous parliez des auteurs qui trouvaient les titres des enfoirés, le Paris des enfoirés. Comment ça se passe aujourd'hui en trop? Parce que Jean-Jacques Goldman est parti il y a maintenant 5 ans, 6 ans, vous aviez connu ces dernières années.
Ouais.
C'était le patron, le créatif, ouais, l'âme artistique. Mmh. Comment ça se passe aujourd'hui, Nicolas? Parce que souvent, on a du mal. Est-ce que c'est la productrice, Anne Marcassus? Est-ce qu'il y a un truc collégial? Est-ce qu'il y a comment ça se passe?
C'était un patron très particulier, Jean-Jacques Goldman, parce que c'était pas un patron revendiqué. C'est-à-dire qu'il avait une autorité naturelle de par son parcours.
Il y a lui et Véronique Colucci. Et voilà, malheureusement, c'est voilà, les deux.
Et il travaillait beaucoup en binôme avec Anne Marcassus.
Oui,
et ensuite, la question s'est posée de savoir qui allait prendre le relais chez les artistes. Mais c'est une lourde responsabilité, c'est un gros travail. Il faut être adoubé par tout le monde, enfin c'est un peu c'est un poste assez particulier. En fait, de fait, naturellement, c'est Anne Marcassus qui était le binôme de Jean-Jacques Goldman, ouais, qui a pris le relais, qui est aujourd'hui l'autorité,
c'est la patronne,
l'autorité morale, et voilà, qui tranche quand il y a des choses à trancher sur le plan artistique. Voilà.
Damien, on reprend une question et puis on parle évidemment de TF1 et d'Europe 1.
Bon, salut Micheline hein, qui est avec nous. On l'adore, on est des fidèles de Canteloup sur TF1. Et on va prendre une question de Camille sur Twitter qui souhaite savoir si vous avez des liens particuliers avec Laurent Gérard qui lui est sur la radio concurrente sur RTL. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous vous voyez? Ou voilà, vous êtes juste des collègues?
Alors,
de travail.
J'ai un lien.
Comment vous êtes les deux imitateurs les plus connus de France?
J'ai un lien d'admiration, ouais, parce qu'il a vraiment ouvert la voie, enfin, sur un style.
Démarrant
très
un peu
classe, avant, oui, un peu avant moi, donc pour moi c'était un modèle. Mais la vie est ainsi faite qu'on ne se connaît pas à travers nos travaux respectifs. Je pense qu'on s'écoute l'un l'autre de temps en temps, parce que par curiosité, savoir où on est
vous
l'autre.
Vous n'êtes jamais puis... rencontré?
Non, on ne s'est jamais rencontré. On ne s'est jamais rencontré. Il m'est arrivé de faire une interview à son sujet pour faire des petites capsules, etc. Mais on ne s'est jamais rencontré. Le paradoxe, c'est que je l'ai imité, ouais, à travers l'émission de la Grande Métamorphose que l'on fait, où on arrive à, ouais, prendre le morphing, la tête des personnages, et on lui a fait un petit clin d'œil sympa lors de notre émission. Voilà.
Et il ne vous a pas répondu encore?
Non, 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 il ne m'a pas répondu.
Alors, tous les soirs, évidemment, également, hein, à 20h50, 20h55, vous donnez la réplique à Alessandra Sublet dans ses Canteloup sur TF1, une émission dans laquelle vous parodiez des personnalités. Parfois, vous allez effectivement très loin, et notamment cette année, avec la Grande Métamorphose que vous avez expérimentée. C'est arrivé en fin d'année dernière, l'occasion d'un beau visage d'une personnalité grâce à l'intelligence artificielle. On voit ici les têtes que ça peut donner. C'est assez incroyable, quoi. Je vais proposer juste qu'on regarde un extrait pour ceux qui ne connaissent, ouais, pas encore, et on en parle juste après.
Nous sommes maintenant avec le Premier ministre Édouard Philippe. Bonsoir.
Bonsoir, Madame Sublet. Eh bien, ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Comme on n'est pas des monstres au gouvernement, voilà, nous retirons le projet de réforme des retraites. Voilà, et on augmente par là même le minimum vieillesse à 1 500 €. Voilà.
C'est vrai, ça?
Bah non. Elle est marrante, celle-ci. Mais non, c'est juste pour voir si vous croyez encore au Père Noël.
C'est absolument dingue parce qu'effectivement, il y a l'apparence, c'est fou, troublant. Vous gardez toujours une petite part de vous, hein, qu'on se rende compte, mais honnêtement, là, on met les cheveux, c'est Édouard Philippe, on n'a même plus l'impression que c'est vous. Comment vous faites pour prendre cette apparence-là, pour que cette magie-là...
Alors, c'est une petite contrainte en termes de jeu parce que, en fait, tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Il y a des ingénieurs qui sont derrière et qui changent l'image, etc., que l'on a découvert, que mon producteur... à rencontrer, à proposer de travailler avec nous. Donc on a cette équipe-là et c'est formidable parce que d'abord nos audiences s'en ressentent, parce qu'il y a un attrait véritable, parce que nous, sur le plan artistique purement, ça nous ouvre le spectre des gens imités, parce que si demain je dois imiter, par exemple j'ai fait le prince Charles, si je fais le prince Charles
sans
l'aspect visuel, les gens vont, ouais, bon, c'est pas trop, ou l'autre jour j'ai fait Benjamin Griveaux, bon c'est pas super, enfin maintenant il est plus identifié, ou la reine d'Angleterre, ouais. Voilà, là tout d'un coup il y a l'apparence fait énormément. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une apparence parfaite, mais ça ne marchait pas, parce qu'on a fait beaucoup d'essais avant que ça soit à peu près au point. Quand l'apparence est parfaite, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas drôle. La perfection,
oui, bien sûr,
la perfection n'est pas drôle. Ah ouais. Donc le fait de garder mon crâne...
avec le bas d'Edouard Philippe.
Voilà, avec le bas d'Edouard Philippe, ça fonctionne. Ou un homme politique, ça fonctionne. La petite difficulté que nous pouvons avoir, c'est sur les femmes. Parce que moi, j'aime beaucoup faire les femmes.
Ouais,
mais une femme sans cheveux, tout de suite, ça peut être... ça donne bizarre, une image, ouais, maladive.
Oui. C'est pour ça que la Ségolène Royal,
voilà, vous mettez une... Voilà, donc on essaie de trouver un artifice, mais on est en train de trouver d'autres artifices, mais ça nous ouvre un spectre très très large en termes d'imitation.
Et pour vous, ça facilite le boulot quand, par exemple, vous l'aviez dit tout à l'heure, Édouard Philippe, c'est compliqué à imiter, même si vous avez trouvé un peu son rythme. Et du coup, là, c'est plus facile. La voix peut être plus approximative, comme il y a l'image et le geste.
Tout à fait. C'est un super relais. Ça nous aide à faire passer le message et à embarquer le spectateur ou le téléspectateur dans l'histoire.
Ben bien.
Allez, on va prendre une question de Valérie sur Twitter. Est-ce qu'il vous est arrivé de vexer des personnalités que vous avez imitées? Est-ce qu'il arrive que parfois des personnes viennent vous voir vous disant « Là, j'ai pas trop aimé ce que vous avez dit sur moi ».
Alors,
Jean-Vincent Placé, qui avait été vexé, c'est vrai. Il l'avoue
rarement, mais en général, je pense que souvent, les gens que l'on imite déglutissent un peu. il se passe un phénomène, c'est… Parfois, des gens aimeraient que je les imite ou j'entends dire « ça serait sympa » parce que tout d'un coup, quelqu'un qui est imité existe sur le plan médiatique parce qu'on avait plutôt des bonnes audiences.
Comme les guignols à l'époque, exactement.
Les gens qui réclament, qui espéraient avoir leur marionnette au guignol, c'était une forme de reconnaissance, un véritable totem de notoriété. Et puis une fois qu'ils étaient imités au guignol, parce que quand on imite, on est là pour faire rire, donc pour faire rire, on met rarement en valeur. Donc, ils déglutissent. Alors, comme ils font bonne figure avec ces gens publics, des hommes publics ou des femmes publiques, ils disent oui, c'est très drôle, etc. Mais je pense que derrière, ils accusent le coup. Donc, oui, je sais qu'il y a Jean-Vincent Placé qui n'avait pas trop aimé, Ségolène Royal, François Hollande, je crois, pas trop aimé non plus.
Vous freine dans vos imitations parce que vous savez que les personnes sont vécues.
Pas du tout.
Non, au contraire.
Non, pas au contraire, parce qu'on va pas. Voilà, mais on a une équipe d'auteurs formidable. Franchement, on se sent libre. On a chance d'être dans un pays libre. On oublie ça, mais on est dans un pays libre avec des vitrines telles que, en l'occurrence, Europe 1, TF1, qui nous laissent carte blanche. Donc, on est mauvais garçons. Alors, on a une forme de responsabilité nous-mêmes dans l'écriture pour que ce soit plus que drôle que choquant. Mais on essaye d'être incisif. Et forcément, comme on est incisif, je pense qu'on bouscule un peu les gens qui sont imités. Par contre, les gens qui sont imités adorent quand on imite les autres.
Voilà. Oui, c'est sûr.
L'opposition.
Mais est-ce que parfois, ils rigolent vraiment? J'ai le souvenir de la campagne présidentielle sur Europe 1 en 2017, où Nicolas Sarkozy était dans les yeux. Vous imitiez évidemment tous ses opposants, mais lui, vous l'imitiez aussi. Et où on le voyait exploser
vraiment. Alors ça, c'est des moments forts, là aussi. Ouais. On parlait de Véronique Sanson ou d'Enfoiré. À ma mesure, c'est quand effectivement à Europe 1, je suis en face de la personne que je vais imiter pendant 10 minutes et il reste pour la chronique. Et là, c'était le président de la République en place, ou quand on a eu François Hollande en face, ou des moments forts aussi quand on a Marine Le Pen en face. Des enjeux, c'est un exercice de funambule. Et quand on arrive à dire des trucs assez durs, être incisif, ou là, boum boum, Sarkozy, mais en même temps, on va aussi sur les gens qu'il n'aime pas et quand je les imite, etc. Bon, bref, quand on les voit commencer à sortir...
Même sur son imitation à lui,
il rit. Oui, quand il commence à sortir à essuyer les larmes un peu, etc., ça c'est du pain béni. Et puis surtout, le pain béni, c'est d'avoir toutes les équipes d'Europe qui sont derrière la vitre du studio, qui regardent, ils disent, il va le faire. Et bon, moi, ça me transcende, c'est formidable. Et puis après, avec les auteurs, c'est une vraie jubilation de partager, de dire, on y est allé, on a fait ça, parce que le truc formidable dans l'imitation, c'est que quand j'ai le président de la République en face de moi, c'est présomptueux de dire ça, mais à 2 mètres, je le tutoie. Je dis, alors Nicolas, je fais Juppé, alors Nicolas, ça s'est bien passé hier soir, ton petit concert là, voilà, je peux le tutoyer, alors que dans la vie, jamais je me permettrais de le tutoyer. Et ça passe, parce que la discipline veut que ça passe.
Ça passe, oui, absolument. Ce vendredi, dans la rubrique 3 minutes pour convaincre, celle que vous faites avec Alessandra Sublet, est-ce qu'il y aura une spéciale enfoirée? Est-ce que vous avez fait un peu la peau des enfoirés? Et dans la peau de qui vous allez vous glisser? Vous pouvez nous donner en avant-première?
Alors, je vais me glisser dans la peau de Jean-Jacques Goldman, dans la peau de Patrick Bruel, et dans la peau, alors ça c'est l'équipe a été assez bluffée, c'est difficile parce que je parle de moi, mais en même temps je suis très relayé aussi par les auteurs et l'image qu'on arrive à produire, mais le Coluche est assez sympa, c'est assez déstabilisant. C'est Coluche qui parle des enfoirés là aujourd'hui.
D'accord, avec évidemment cette nouvelle technologie. Ouais. En moyenne, c'est Cantelou, c'est 4,8 millions de téléspectateurs, plus de 20% de part d'audience.
On arrondit ça
au-delà.
On va dire 5.
J'arrondis.
C'est
offert, c'est comme ça. Est-ce que, vu les chiffres d'audience, depuis que ça fait l'air, on sait que c'est un moment important entre la fin du JT et le prime time, est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une émission spécial, un prime, vous avec d'autres invités, des amis, etc., autour de l'imitation des blagues. Alors, vous en avez déjà parlé, est-ce que votre producteur et TF1, vous aviez envie de le faire?
Alors, TF1 nous le demande régulièrement parce qu'on a les audiences légitimes pour pouvoir le faire. Et en fait, nous, on freine. Pourquoi on freine? Je pense que parce que c'est un surcroît de travail et que l'air de rien, pour pas décevoir sur une heure et demie une spéciale, et c'est un vrai boulot, que mes auteurs sont exsangues parce qu'ils écrivent 11 minutes en radio, 7 minutes en télé tous les jours, donc c'est un vrai boulot. Ouais, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilien, Arnaud Demange, enfin, c'est un vrai, vrai travail. Donc, on essaye d'être bon dans notre couloir et pas essayer de sortir du couloir et faire un truc décevant. Bon, je pense qu'on ne décevrait pas.
Et donc, on vous le demande, mais pour l'instant, on
essaye de bien faire le quotidien. Déjà, le quotidien sans sortir de...
Bon, ça viendra peut-être. Ne désespérez pas, chers internautes. Damien.
Oui, Bettina, je souhaite savoir un petit peu votre cuisine en coulisses. Quelle est la part de blagues que vous écrivez? Vous dites que vous avez des auteurs. Est-ce que vous écrivez un tiers des blagues? Est-ce que vos auteurs écrivent la totalité? Comment ça
alors,
se passe?
Alors, les auteurs, oui.
Vous êtes payé au mot, hein, celui qui alors, trouve la blague.
Lorsque j'ai débuté, j'écrivais tout seul. Mais je me suis vite rendu compte que le talent, c'est de savoir s'entourer et connaître ses faiblesses. Donc, je savais. Voilà, j'ai rencontré des gens formidables, comme ceux que j'ai cités, Laurent Vassilien, Philippe Cavrivière, Arnaud Demange, qui m'accompagnent pour deux d'entre eux depuis plus de 20 ans, et qui sont non seulement fidèles, qui comprennent très vite, qui sont intelligents, qui percutent. Moi, je suis vraiment admiratif, je suis leur premier lecteur, et donc c'est eux qui me donnent vraiment la majorité des textes. Ensuite, je vais amender parce que je vais mettre sur mes mots, ou il y a des choses que je vais récuser parce que je ne le sens pas, ou un angle que je vais proposer, ou parfois c'est eux qui me proposent des choses, mais... La vraie matière, le vrai talent, c'est les auteurs qui l'apportent.
Évidemment, il y a Europe 1, hein, on en a parlé déjà régulièrement dans la revue de presse. Bonne nouvelle, c'est que la dernière vague, enfin, Europe 1 remonte après plus de 4 années de chute. Est-ce que c'est pour vous difficile dans cette radio? Vous êtes arrivé, évidemment, c'était le sommet, vous étiez avec Marc-Olivier Fogiel, c'est ça, à l'époque. Et puis, évidemment, la chute, la baisse de la radio. Est-ce que c'est difficile quand on est tous les matins là-dessus de voir les audiences baisser? Puisque forcément, tout le monde baisse, toutes les rubriques, toutes les tranches.
Alors, c'est pas difficile.
Comment vous l'avez vécu? Vous avez hésité un moment?
C'est pas difficile parce qu'au sein de la rédac, on a toujours été, je crois, plutôt apprécié parce qu'on est les enfants terribles.
Vous avez changé de direction 4 fois en 5
ans. Oui. Et puis, nous, dans notre quotidien, ça ne changeait pas notre petit côté artisanal de travailler les textes, de faire une quotidienne. On a toujours eu, et j'y suis reconnaissant à Europe 1, on a toujours eu les mains libres. Ils nous ont toujours très bien accueillis, très bien servis. Après, c'est vrai que lorsqu'on n'est pas payé en audience parce que la matinale marche moins bien, etc., c'est un peu frustrant. Mais on a toujours eu l'exigence de se dire, on garde le cap, on essaie de garder la qualité, en particulier essayer de faire les interviews derrière l'homme politique qui est interviewé par le chroniqueur politique, d'essayer de faire une interview produit frais tout de suite, c'est-à-dire en réactivité, faire un pastiche tout de suite de l'interview politique. Donc garder cette exigence dans l'écriture. Et vraiment, encore une fois, je veux rendre hommage aux auteurs parce qu'ils n'ont jamais rien lâché, ils ne sont jamais démotivés. On a dit, on avait presque envie de dire, on est quand même là, on est en place, quoi qu'il arrive, on est en place. Et là, le bonheur total, c'est de voir aujourd'hui que ça paye, non pas par notre travail, mais de voir que tout d'un coup, la grille s'est mise en place et il y a une espèce de l'alchimie, de magie autour de Constance Benquet, qui est la présidente, c'est pas du faillotage, mais parce qu'elle a su remettre une forme de synergie. Et en fait, elle a une force, Constance Benquet, qui est la tête d'Europe 1, elle a dit, j'y connais rien en radio. Ouais. Elle venait de la régie publicitaire, elle était chargée de chercher des sous. Elle a dit, j'y connais rien, expliquez-moi et montrez-moi ce que vous savez faire. Et en fait, elle a su être à l'écoute, elle a laissé chacun faire, elle a su déléguer. Et du coup, chacun s'est senti responsable de cette radio, c'est la sienne, c'est son bébé. Chacun a sa tranche. Et du coup, c'est marrant, cette année, on se le disait entre nous, il y a un petit cocktail de rentrée, à pas cher, parce qu'on n'a pas plus un sou. mais on sent, je ne sais pas, j'ai l'impression que cette année, j'ai l'impression que c'est la remontada cette année. Et puis, pam, 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 pam. Et vous voyez, Vandel m'a appelé, le premier truc son âge, je dis, ouais, t'as vu, on avait dit la remontada, ça bouge. Donc là, c'est super, quand on a vécu un peu l'orage, on a passé le Cap Horn, et là, il commence à faire un peu beau, on est au bateau, là, on est à la barre, c'est très sympa.
Vous avez pensé à la quitter, ce navire, comme beaucoup l'ont fait en 5 ans, hélas, hein, parfois, à leur corps défendant, mais beaucoup sont partis.
On nous a incité, des gens de l'extérieur, dit, ouais, qu'est-ce que tu fais, ça se casse à la binette, va ailleurs. Bon, nous, on se sentait bien. C'est quand même un luxe d'avoir les mains libres, d'avoir toute cette liberté. Vous allez me dire, on aurait pu le faire ailleurs, mais je ne sais pas.
Vous avez pas eu des propositions dans cette période-là, parce que quand ça va mal, les concurrents
profitent
notamment pour...
Mais je trouve que ce côté fidélité nous allait bien au teint. Ils ont été royales avec nous lorsque tout allait bien. Donc, là, c'était un peu plus dur. On reste dans la boutique. Voilà.
Alors, évidemment, Damien, on reprend une question. Ah, et puis, juste après, on parle de l'humour.
Une question assez générale de Béatrice. Quelles sont les envies de Nicolas Canteloup aujourd'hui? C'est vrai que vous faites de la télé, vous faites de la radio. Est-ce que vous avez des envies particulières aujourd'hui?
Alors, mon envie première, c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais, parce que j'ai vraiment conscience d'être un privilégié par ces vitrines que j'ai à la radio et à la télé. Vous vous rendez compte, on est des, entre guillemets, des auteurs. On pond des choses tous les jours qui nous font rire avec les auteurs. Et on arrive à les diffuser tout de suite, c'est un vrai luxe. Un auteur de film, eh ben, il attend 18 mois avant que ça sorte. Un auteur de bouquin, voilà. On est en réactivité, on se nourrit de l'actualité qui est extrêmement riche parce qu'on est surmédiatisé, on est surinformé aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, les chaînes d'info continue, ces conneries d'Internet comme vous faites aujourd'hui.
on est
surinformé. La matière, la glaise, on en a, donc on peut faire toutes les poteries qu'on veut. Donc bon, bref, je ne sais pas pourquoi je dis cette image-là.
C'est pas grave,
c'est mon côté 2.0,
artisan moderne. 2.0.
Donc de pouvoir s'exprimer tout de suite devant 5. Des fois, on se dit avec mes camarades, on se dit, tu te rends compte, là, on joue devant sur Europe, c'est quoi, 1 million à peu près d'audience, ouais. Pour se remettre les trucs en tête, on se dit, on joue devant 25 stades de France tous les matins pendant 10 minutes. C'est génial. Il ne faut pas oublier ça. Parce que nous, on fait un métier d'artisan, on est entre nous, notre petit studio, on fait notre truc. Mais vous voyez, quand on a les retours d'auditeurs qui nous disent, Micheline, qui nous dit, ouais, c'est sympa ce que tu fais, nous, ça nous fait plaisir parce que l'air de rien, c'est un métier d'artisan et on fait ça un peu caché, sauf quand on est en public. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus pas de scène en tout cas. Donc, c'est de continuer à bien faire ce que je fais, essayer de développer ce concept de la métamorphose parce que c'est un truc qui est formidable. On a toujours l'envie, chaque année, on se réunit pour dire on monte sur scène, on ne monte pas sur scène. C'est vrai que là, les présidentielles arrivent dans 2 ans, on a envie. Mais bon, on fait radio, télé, scène. Ouais. On sait qu'on a envie de faire 2 choses très bien et si on en fait 3, est-ce qu'on ne va pas faire tout moyennement? C'est un peu le danger. Voilà.
Alors, j'aurais qu'on finisse également, notamment en parlant d'humour, qui est de plus en plus difficile aujourd'hui. Hein. C'est compliqué. Dès qu'il y a une blague partout dans une télé, une imitation, il y a des associations, les réseaux sociaux, les torrents debout. Ça vous est arrivé récemment avec l'imitation de Gérard Collomb. Fin janvier, sur La Ville, vous parliez du chinois et coronavirus. Ah oui. L'attraper avec une tapette à chinois. L'acteur Frédéric Chaud, qu'on a vu dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, est monté en créneau en disant que vous étiez raciste, médiocre, etc. Est-ce que ça vous a blessé et... Plus loin, Nicolas, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui et que vous devez faire beaucoup plus attention, vous et vos auteurs, à ce que vous disiez il y a même encore 1 an, 2 ans, 3 ans, quoi?
Alors, ça me blesse si je suis démasqué sur un travers. Mais là, je ne sais pas ce que je suis. Et puis, je ne vais pas... Je pense que le public a un instinct animal. Ils sentent si on est raciste ou pas raciste. Je veux dire, sur 14 ans de chronique... On voit bien la tendance.
Vous pouvez rater une chronique, c'est ce que vous voulez dire. Vous n'êtes pas raciste, mais ça vous arrive de rater
Non,
une
mais
blague,
c'est, on peut être maladroit ou mal compris ou on a mal vendu notre vanne. Ouais, ça peut arriver. Maintenant, d'être de façon identitaire, avoir ce travers-là, on n'a même pas besoin de justifier. Il suffit de lire nos textes pour voir qu'au contraire, on est plutôt, on défend certaines valeurs. Après, est-ce que c'est plus compliqué? Oui, il y a plus de choses trappes. Enfin, on est plus vu, on est plus écouté, on est plus exposé. Donc, il faut faire attention. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. On est très exposé. Autrefois, quand on jouait à 4 siècles, il y avait un amphithéâtre de 300 personnes et il n'y avait pas de moyens techniques pour multidiffuser. Ouais. Donc la multidiffusion, l'outil technique, fait que ça change le regard qu'on porte sur nous. D'ailleurs, le végétarien est très artificiel, le fait d'être perçu comme une star. On n'est pas plus star qu'un chirurgien, un instituteur, une infirmière. Bon.
Et cette amplification, ça ne vous emmène pas? Parce que parfois, vous allez faire une blague qui va choquer une personne, une petite association, et qui va le relayer, et beaucoup de gens vont...
Non, parce que tout ça est quand même du domaine de l'éphémère, et puis en même temps, c'est un miroir, ça fait prendre conscience parfois, attention, c'est un miroir, ça permet de... Voilà, mais il ne faut pas que ça inhibe. Et je pense qu'on n'est pas inhibé, on essaye toujours dans nos textes d'être incisif, de ne pas être fat, parce que c'est ce qui fait qu'on est regardé. Si on est mièvre, de faire des trucs où on ne touche pas à ça, on ne touche pas à ça, ça n'a aucun intérêt. Donc on reste incisif, on entend. Voilà, c'est un travail un peu plus de funambule aujourd'hui, mais c'est le jeu, c'est notre époque.
C'est dit en tout cas. On passe tout de suite à notre rubrique sucré salé pour terminer ce buzz. Sucré salé, c'est notre rubrique de fin, Nicolas. Je vais vous faire 2 propositions. Vous avez 2 choix et comme dans la vie, faut choisir. Je sais que parfois c'est difficile. Vous pouvez être sucré ou salé. Si je vous demande ce que vous préférez entre Laurent Gérin et Thierry Leluron. Ah. Si vous deviez en choisir.
Voilà, c'est très difficile. Ouais, vous allez me fâcher. Bon, je peux plus
c'est deux modèles, j'imagine.
Hein. Plus facilement me fâcher avec Thierry Luron. Donc,
non, vous pouvez donc, plus.
Je vais dire, comme je suis focus, je vais dire Laurent Gérard.
Donc plus Laurent Gérard, c'est ça?
Oui, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Laurent Gérard. Mais c'est vrai que mon identité, c'était le Luron. Quand j'étais gamin, j'avais 10 ans, c'était Laurent Gérard qui était en haut. Laurent Gérard, c'était Thierry Luron. Ouais.
Alessandra Sublé ou Nico Saliagas?
C'est terrible, hein, ce qu'on me demande.
Je
peux tout dire parce qu'ils savent tous les deux l'affection que j'ai pour eux. Alexandra, c'est vrai, formidable parce qu'elle est pétillante, naturelle. Elle est rentrée dans le costume de Nico. C'était pas facile d'aller derrière Nico.
Vous aviez une vraie complicité.
Et puis en plus, on est très copains, donc c'est pas facile. Et puis elle a porté un vent de fraîcheur. Je vais dire Alexandra parce qu'elle est un peu plus féminine que Nikos.
C'est pas un jeu. Mathieu Bélien ou Thomas Soto?
Oh punaise, c'est terrible, c'est deux copains aussi. Ouais, alors, il y en a un, c'est un copain, c'est Thomas Soto.
Depuis plus
longtemps. Qui a apporté du dynamisme, qui est un peu à l'école, j'allais l'assimiler à Fogiel souvent, parce qu'il met du rythme, Et la force en radio, c'est de mettre du rythme. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de choses à dire en peu de minutes. C'est-à-dire que vous avez une journaliste qui va dire 10 choses en une minute et l'autre qui va en dire 14. Et puis c'est celui qui en dit 14 qui est bon. Ouais. Et Fogiel avait cette qualité-là, Thomas Soto. Et la force de Mathieu Béliard, c'est ça. Et en plus, Mathieu Béliard, un truc en plus, c'est que lui, il est très rieur, très nature. C'est une bonne patte. Il se marre de tout. Donc ça fait un réveil non seulement informé, mais en plus joyeux. Et dans une actualité qui est morose, qui est souvent noire, grise, etc., ben lui, il y a un côté un peu distancié, sérieux, mais distancié, la vie est belle. Et c'est un gars qui croque la vie, ça se sent à l'antenne.
Donc Mathieu Béliard, vous préférez tout ce qui est nouveau, hein, plutôt, hein, Gérard, plus que Lyon. Vous aimez la nouveauté, les ex...
Non, pas la nouveauté, je faillote avec ceux qui sont en place.
Avec l'actuel, voilà, c'est ça, c'est bien. Radio ou télé? Si vous deviez en choisir qu'un, il devait en rester qu'un. On vous dit, tu ne peux plus en faire qu'un seul, lequel vous prendriez?
La télé, parce que c'est un peu plus payé que la radio.
Oui, normal.
Mais la radio, parce qu'il y a une forme de liberté totale. C'est-à-dire que la contrainte de la télé, c'est vrai. D'abord, on a une forme de responsabilité, parce qu'en télé, je suis écouté par les jeunes gens qui ont de 7 ans à très âgés. Donc, il y a une forme de responsabilité sur le discours que l'on va apporter. En radio, c'est plus du CSP+, 40, 50 ans, 35 ans, voilà. J'allais dire qu'on peut aller plus loin dans l'irrévérence. Et puis l'atout de la radio, je fais vite parce que je pense que vous êtes
passé. Non, mais vous en faites pas.
Vous avez Laurent Gérard derrière.
Oui, absolument. Laurent Gérard, on a la politique derrière des débats, vous inquiétez pas.
Non, la radio, parce que c'est un média d'immédiateté. C'est une belle phrase, c'est un média d'immédiateté. C'est-à-dire qu'on prend un micro, on dit une bêtise, ça passe. En télé, il faut régler la lumière, le son, le truc, l'image, le maquillage, le truc. Bon, enfin voilà. C'est un peu plus chaud, mais. Mais la télé, ça, voilà, c'est formidable aussi.
Merci beaucoup, Nicolas Canteloup. Merci encore d'être passé nous voir. On était vraiment ravis de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle qu'on vous retrouve demain et on sera tous devant le concert des Enfoirés à 21h05 sur TF1. Ne ratez pas, évidemment, c'est pour la bonne cause. Et évidemment, beaucoup de surprises vous attendent cette année. Et puis, évidemment, c'est Canteloup tous les jours. C'est 20h50, 55 à peu près en fonction de
la pub. Je ne regarde pas.
Voilà, c'est pas. Je ne regarde pas. C'est sur TF1 et tous les matins sur Europe 1 à 8h45. Hein, c'est ça
Là,
vous savez normalement.
Oui, c'est ça.
Oui, 8h45. Et c'est sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Et nous, Damien, on se retrouvera demain pour le dernier buzz de la semaine. Qui sera notre invité?
Oui, alors cette fois-ci, on va rester au sein du groupe TF1 parce qu'on va recevoir
le dos comme ça là.
Demain, on reçoit deux acteurs qui officient au sein du groupe TF1 puisqu'ils incarnent tous les deux les bracelets rouges. En tout cas, ils font partie des acteurs qui sont les têtes de gondole de cette série qui cartonne sur TF1. Nous allons recevoir demain Audran Catin et Luna Espinosa qui viendra donc nous voir sur ce plateau.
Ce sera dès 9h30 avec toutes vos questions en direct. Merci et excellente journée à toutes et à tous.